Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 838 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable avec l'appellation Saint-Véran. Nous partirons donc en Bourgogne. On parlera également du championnat du monde de dégustation à l'aveugle, un beau voyage au pays de Bactus, plutôt dans le Languedoc, et puis le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Hélène Pio, Philippe Forbrach et André Derieux. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Alors pour commencer cette émission, Invino sur Radio accueille un coup de cœur, le coup de cœur de la semaine. On reçoit aujourd'hui par téléphone Nicolas Baille et Kevin Huron, le Mas de Lavaille, dans le beau pays catalan. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors dites-nous, bonjour, c'est un domaine familial, vous êtes à 5e génération, pas trop dur à porter ça?
Eh bien écoutez, non, ça, c'est du travail, mais écoutez, notre terroir permet de réaliser, d'élaborer de grands vins, donc ça nous facilite les choses.
Bon, et c'est quasiment bio naturellement parce qu'il y a tellement de tramontane qu'il n'y a aucun microbe qui résiste là-bas, non?
Eh bien écoutez, c'est vrai que la tramontane peut des fois gêner pour lors des traitements, mais c'est grâce à la tramontane que nous sommes la région viticole française où on traite le moins.
Cocorico, notamment la... Hélène Pio.
Alors effectivement, c'est là qu'on traite le moins chez vous. Et bah écoutez, du coup, c'est ce qui vous permet de bénéficier d'un climat extraordinaire. Il faut dire que vous êtes entre la chaîne des Pyrénées et celle des Corbières, donc c'est sympa, vous avez du vent tout le temps. Est-ce que ça aide pour vos cépages? Alors on va résumer un peu, hein, 80 hectares, Grenache noir, Gris blanc, Carignan, Syrah, j'ai fait le tour?
Et Carignan blanc, exactement. Carignan blanc.
D'accord. Ouais. Donc effectivement, vous êtes en plein vent là, entre vos deux chaînes de montagne, non?
Eh bien oui, c'est vrai que le terroir de Maury est situé entre deux chaînes des Corbières, et cela fait un grand couloir où s'engouffre la tramontane. Et bon, c'est la tramontane, c'est un allié pour nous, pour la lutte contre le mildiou. Puisque c'est un champignon et la tramontane sèche ce champignon.
Donc tout ça sur un domaine donc, que vous possédez depuis 1999. Alors oui. Explique-nous, parce que la cinquième génération, 1999, racontez-nous comment ça s'est passé.
Eh bien, mon père et mes grands-pères étaient en coopérative à Maury. Et en 1999, nous avons eu l'opportunité d'acheter un mas, donc un domaine situé au cœur de l'appellation Maury. Et donc, j'ai fait le saut et je me suis installé en cave particulière. Voilà.
Et donc, là, maintenant, bah, vous travaillez aussi avec les femmes du domaine, Marie-Laure et Sophie. On ne va pas citer que les hommes.
Hein. Voilà, il y a ma sœur qui est également sur le domaine et ma mère.
Très bien. Et alors, à vous tous, donc cette belle famille Baille, vous avez une très grande gamme de vins. Alors, par quoi on commence? La gamme Balade?
Eh bien, voilà, nous avons l'entrée, si vous voulez, l'entrée de gamme qui s'appelle la gamme Balade, qui est déclinée en trois couleurs, rouge, blanc, rosé. Donc, nous avons un Carignan blanc, 100% Carignan blanc pour le Balade blanc, un Carignan noir, 100% pour le Balade, et le rosé qui est à base de Grenache, Syrah, qui sont des vins de copains, des vins faciles à boire, avec beaucoup de sucrosité, beaucoup de rondeur.
Voilà, donc là, et on après, est en IGP avons... Côte Catalane, c'est ça?
En Côte Catalane, exactement. Et après, nous avons les Côtes du Roussillon Village. Donc, nous avons la cuvée Tradition, qui est un assemblage de Syrah, Grenache, Carignan, en élevage cuve pour garder vraiment le fruit, avec de jolis tanins soyeux et enrobés. Nous avons la Désirade, qui est également en Côte du Roussillon Village, qui, elle, est élevée en fût de chêne, qui est plus un vin de gastronomie, un vin de garde, puisqu'il faut savoir que sur Maury, la spécificité du cru et du terroir de Maury sont ces rendements naturels qui sont très, très faibles.
Nicolas, si on vient dans la région, dans cette belle région, là, vous êtes au pied de Château de Quiribus, qu'il faut absolument les visiter. On peut venir chez vous, là? Vous êtes ouvert au public? Vous êtes aussi sympa en vrai qu'au téléphone?
Bien sûr.
Et on peut déguster tout ça?
Bien sûr, vous pouvez tout déguster.
Avec modération, évidemment, mais gratuitement, j'espère, non?
Bien sûr.
Bon, c'est bien, ils sont géniaux ces Catalans. Hélène, une dernière question peut-être?
Oui, bah, écoutez, elle concerne mon coup de cœur parce qu'on n'a pas eu le temps de parler des Maury secs, donc les deux cuvées Ego et Initial, qui reçoivent régulièrement des médailles. Hein. Moi, j'ai goûté Ego 2014, qui a été médaille d'or au concours Grenache du Monde. Alors, avant d'en dire un ou deux mots, racontez-nous, parce que tous ces vins-là, comment est-ce que vous traitez le problème du bouchage? C'est souvent un problème qu'on a sur les grands vins. Comment est-ce que vous avez régler ça?
Eh bien, écoutez, ça fait quelques années maintenant que nous bouchons la totalité de notre gamme avec des bouchons de marque Diam, donc qui est fabricant dans notre département. Et c'est vrai que nous sommes rendus compte de la belle évolution de nos vins, et également et surtout que vous n'avez pas avec les bouchons Diam de bouteilles bouchonnées.
Oui, ça, voilà. C'est quand même 100%. Bravo.
Alors, je vous posais la question parce qu'effectivement, moi, j'ai goûté donc la cuvée Ego, donc un moré rouge sec.
Alors, allez-y, Hélène. Alors, attention, c'est la sentence, Nicolas. Attention, hein, écoutez bien.
Attention, ça a été terrible. Mais non, c'était vraiment bien. Alors, je ne sais pas si c'est le bouchage Diam, mais c'est vrai que le nez a mis un petit peu de temps à s'ouvrir. En même temps, la bouteille, voilà, le vin était dedans depuis 2014. Il fallait qu'il se réveille, il fallait qu'il s'ouvre. Et puis, quand il s'est décidé à nous parler, il y avait des notes de thym, de garrigue, de mûre. Je ne sais pas s'il y a de la garrigue près de chez vous, mais en tout cas... Voilà.
Mais il n'y a que ça. Il n'y a que de la vie, de la garrigue.
Voilà. Mais ce qui frappait avec ces notes vraiment de climat chaud, c'était qu'on gardait des tanins très souples. Il y avait une grande rondeur. On sentait la chaleur, hein, on va le dire, c'est 15 degrés quand même. Mais c'est vrai qu'on gardait quand même quelque chose de très souple.
Donc
de
vous avez aimé,
agréable.
Hélène ?
J'ai beaucoup aimé.
Une note sur 20 ?
C'est toujours difficile à dire. Non, je préfère donner un gros coup de cœur.
Un grand coup de cœur, quoi.
Et Nicolas, 14 euros en plus.
14 euros, voilà, c'était le prix, quoi. Merci beaucoup, Nicolas. Merci également, Hélène. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur. Hein. Profitez bien de cette belle ville de Perpignan qui est à 30 km à peu près, hein, qui a été nommée encore une fois cité ville européenne du vin. Philippe Forbrac, vous qui êtes meilleur sommelier du monde, notamment, on va quitter le beau pays catalan pour aller dans une très, 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 très belle région, en Bourgogne. On va où exactement ?
On y fait du vin aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Depuis quelques décennies, voire plusieurs siècles même. Je vous amène du côté du Mâconnais, une région un petit peu moins huppée peut-être que la Côte d'Or, avec la Côte de Nuit, la Côte de Beaune. Et dans un secteur pas loin de Mâcon, sur la route du Beaujolais, avec l'appellation Saint-Véran. Saint-Véran, dont le village s'appelle Saint-Véran, V-E-R-A-N-D, mais l'appellation a fait tomber le D, comme on dit. Ils se sont émancipés du dé pour pouvoir juste s'appeler Saint-Véran à N à la fin. C'est une appellation qui est relativement récente. On y fait bien sûr du vin depuis longtemps, mais relativement récente, ça dit pour le monde, pour l'univers des appellations, puisque ça date de 1971.
D'accord.
Alors que la plupart des appellations, des grandes appellations de la région, ont été créées dans les années 30, quand l'INAO a été créée, 40, éventuellement 50. Et donc finalement, ça fait partie des jeunes appellations bourguignonnes. La particularité de Saint-Véran, c'est situé aux confins du Mâconnais, donc du Beaujolais, sur un terroir qui est un peu mixte, pas loin de Pouilly-Fuissé, qui est assez connu, ou de Davayé, qui abrite également un lycée viticole qui a formé nombre de générations de grands viticulteurs bourguignons d'aujourd'hui, et qui bénéficie d'ailleurs, justement, avec le château de Poncetti, de l'appellation Saint-Véran. Le lycée viticole produit du Mâcon Village et Saint-Véran, ce qui permet effectivement à cette appellation d'être une sorte de laboratoire, quelque part, pour former les futurs grands vignerons de la Grande Bourgogne, comme on dit. Et dans cette appellation, on n'y produit que du blanc.
Que du blanc, il n'y a pas de rouge.
Non, c'est du chardonnay.
Bon.
Et c'était relativement simple, finalement, à trier. Les zones calcaires, chardonnay. Et c'est vrai qu'on va y revenir, ça donne un caractère particulier. Et les zones granitiques, gamay, pour pouvoir y produire, effectivement, à la fois dans l'appellation Mâcon.
Mais le gamay, c'est pas pour le vin rouge, Philippe ?
Oui, justement. Ah. Donc, pour le granit, les rouges de gamay. Et pour les chardonnays, donc en blanc, bien entendu, les zones calcaires. Donc les vins produits sont des blancs, vous l'avez compris. Et le sol calcaire permet effectivement d'avoir une sorte de vibration naturelle qui amène de la fraîcheur, de la vivacité, de la minéralité. J'en profite que David nous écoute sans nous perturber trop aujourd'hui pour pouvoir évoquer ça. Et en tout cas, ça donne une certaine salinité, une impression de fraîcheur qui est indéniable et qui permet au chardonnay, notamment lorsque les clones, c'est-à-dire la variété de chardonnay, parce qu'il y a un chardonnay, on parle chardonnay, mais il y a une multitude de chardonnays différents en fonction effectivement de différentes façons à la fois de les produire, différentes origines et différents types de clones, ce qui permet effectivement de pouvoir adapter le mieux possible le clone qui convient. Et là, on a des vins qui sont extrêmement floraux. Souvent,
ça peut se garder, Philippe, selon vous ou pas ?
Alors, c'est pas très trop agréable jeune. Bon. Franchement, Saint-Véran, d'un an ou deux, c'est juste un vrai plaisir.
À l'apéro ou en plat ?
À l'apéritif, ça marche très bien, notamment lorsqu'ils sont jeunes. Ça marche très bien avec les fromages. Les petits boutons de culotte du Mâconnais, c'est juste une petite merveille.
Ça rappelle les souvenirs, ça, Hélène, les petits boutons de culotte. Hein
oui, la guerre des boutons.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais, okay. C'est ça, oui.
Voilà. Non, mais du globalement, les fromages, notamment les fromages de chef, ça fonctionne bien. Et puis les spécialités un peu bourguignonnes, les cuisses de grenouille, par exemple, ça va très bien.
Avec
aussi,
un petit peu d'ail, non
Petite
persil, non
Et un peu de persil, ça marche.
Génial pour la Saint-Valentin.
Génial, enfin, exactement. Mais justement
c'est
avec
bon,
un
vous
coup
avez
de Saint-Véran,
pour digérer.
Ça permet effectivement de repositionner le palais voilà, d'une façon très agréable. C'est un vin, lorsqu'il prend un peu d'âge, il peut très bien aller aussi sur des jolis poissons ou du crustacé. Donc c'est un vin qui sait se tenir aussi. Et on n'est pas loin de Pouilly-Fuissé qui donne quand même des vins de très beaux...
Et de garde.
De très beaux caractères et de garde notamment. D'ailleurs, beaucoup de vignerons de Pouilly-Fuissé... Vous allez voilà, me demander dans quelques instants de citer quelques vignerons valeureux. Cœur, oui. Voilà. Et donc, je pense à Jean-Jacques Vincent et sa famille, en tout cas au château de Fuissé, font également des Saint-Véran. Et ce n'est pas un sous Pouilly-Fuissé, c'est vraiment une cuvée complètement différente, plus accessible souvent en termes de prix.
Alors, combien ça coûte, Philippe ?
On est autour d'une... Bourgogne, ça monte vite dans les tours. Donc, oui. À 15 euros, on a l'impression de démarrer un peu le combat.
D'accord.
Mais effectivement, autour d'une quinzaine d'euros. Il peut y avoir aussi, comme toujours, des cuvées un peu particulières qui peuvent dépasser les 20 euros. Mais globalement, pour un Bourgogne blanc, ça reste plutôt raisonnable en prix. Et certains peuvent d'ailleurs être un peu moins chers. Ceux qui est fait par la cave de Prissé, par exemple... Les fameuses grandes vignes de Prissé de la cave coopérative.
Et ça, c'est moins cher, quoi.
On peut être même
vous
un
aimez
petit peu moins cher.
Les vins de Saint-Véran, Hélène ?
Ah, moi, je suis très, très fan parce que, effectivement, c'est tout ce que Philippe disait. C'est facile à boire, ce qui n'est en aucun cas une injure.
Oui, c'est pas péjoratif du tout.
Au contraire. Au contraire, c'est vraiment le vin de copain. C'est sympa. Vous ouvrez une bonne terrine, un pain croustillant,
ouais,
une bouteille de
vous ouvrez un bon copain. Et vous, André ?
Moi, j'ai des bons souvenirs avec des écrevisses.
Alors, pour terminer, Philippe, quelques bonnes adresses, en tout cas ?
Mis à part ceux que j'ai déjà cité, la Croix-Sénaillée.
J'adore, très très bon la Croix-Sénaillée.
Voilà, le domaine des Deux Roches, avec ses fameuses Deux Roches célèbres, celle de Solutré, historique.
Ouais, très connue aussi.
Et celle exactement. De Vergesson, ne l'oubliez pas.
Exactement, et entre les deux, donc, c'est effectivement ce joli domaine. Trenel également, père et fils, le domaine des Poncetti de la cave, du lycée viticole, pardon. Et Georges Dubœuf, parmi les négociants aussi de la région, il ne faut pas oublier, parce qu'ils sont assez présents sur le marché pour diffuser l'image de cette belle appellation.
Et le dernier détail pratique, Philippe, la température de service d'un bon Saint-Véran, à l'apéro, avec une cochonaille, avec Hélène, André, tout ça.
Jeune, autour de 8-10 degrés, c'est-à-dire un peu sur la fraîcheur quand même, mais il ne faut pas hésiter, lorsque le vin prend un peu d'âge, à les servir plutôt autour de 12-13 degrés. C'est vraiment extrêmement intéressant de goûter des blancs en température de cave.
Merci Philippe Aubrac, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine. Nous parlerons de dégustation à l'aveugle avec Philippe de Cantelac.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas de la Madeleine à Paris pour cette émission publique et délocalisée avec un nouvel invité, Philippe de Cantelac, qui est journaliste à la Rue d'Anne France, pour nous parler d'un sujet quand même passionnant, le championnat du monde de dégustation à l'aveugle. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Hélène.
Tic-tac, tic-tac. Nous, on est très tranquille. C'est le week-end. Sauf qu'il y a des gens qui se disent, c'est tout ce qui me reste avant le 12 octobre, la 7e édition du championnat du monde de dégustation à l'aveugle. Il y a des gens qui s'affolent partout dans le monde pour ce truc-là. C'est le seul concours mondial de dégustation réservé aux amateurs. En plus, cette année, c'est une édition d'exception parce qu'elle va se tenir au château de Chambord qui fête son 500e anniversaire. Et pour nous en parler, Philippe de Cantenac, qui travaille à la Revue du Vin de France, puisque c'est la RVF qui organise ce concours. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, 25 pays cette année, plus, moins ?
À peu près 25, mais la date n'est pas encore close, donc il est possible qu'on ait encore un pays ou deux qui s'inscrivent d'ici.
Alors, quel pays ? Qu'est-ce qu'il y a comme pays exotique ?
Exotique, je ne peux pas vous dire. Enfin, il y a des pays de 5 continents. Il y a évidemment la Chine, Taïwan, l'Afrique du Sud, la Russie, la Finlande.
Je ne pensais pas qu'on commencerait par ça, mais j'ai entendu parler d'une équipe du Zimbabwe en 2007.
Oui, oui.
C'est vrai.
C'est un peu l'Eurovision du vin, quoi, hein, version mondiale. Quoi.
J'ai même eu l'occasion de les accueillir dans mon restaurant.
Les Zimbabwe, aujourd'hui.
Exactement.
Comment s'appellent les habitants du Zimbabwe, Philippe ?
Ils s'appellent.
Les Solutré.
Les Zimbabwe.
Les
Zimbabwe, tout simplement. C'est les voisins d'Afrique du Sud, puisqu'ils étaient là aussi avec l'équipe d'Afrique du Sud.
Ils étaient bons au vin ou pas ?
Franchement, ils étaient pertinents dans leurs propos. Je sais qu'ils n'ont pas nécessairement gagné le concours, en tout cas même pas dans les places d'honneur, mais en tout cas, c'était génial qu'ils soient là et ils étaient super passionnés.
Ah. Et petite parenthèse encore là-dessus, il paraît qu'il y a un film qui va sortir ces prochains jours là, sur leur épopée.
Alors, on l'attend.
D'accord.
Avec impatience, parce qu'il a été tourné en 2017.
Oui, mais vous savez, le montage, c'est long toujours. Hein.
Voilà.
C'est une équipe d'Australie qui tourne, alors il faut faire venir
c'est
les
un peu
images.
Long. Alors, ce championnat du monde de dégustation à l'aveugle, donc le 12 octobre prochain, qu'est-ce qu'ils vont faire ? J'ai entendu parler de 12 vins du monde, 6 blancs, 6 rouges. Qui est-ce qui décide de ces vins, déjà,
pour commencer ? C'est moi.
C'est vous ?
Oui, oui.
Donc c'est avec vous qu'il faut coucher ou qu'il faut faire parler ou à qui il faut donner 2 millions, je ne sais pas.
Bon, allez-y André, mais on ne dira rien.
Pour arriver à savoir qui sont les vins sélectionnés. Vous, non, tout seul ?
Ça va être difficile.
Quelle responsabilité ?
Oui, c'est une certaine responsabilité, mais enfin, en même temps, bon, ça va. On arrive à garder un peu le secret.
Bon, ah, on arrive. Donc déjà, oui. Vous n'êtes pas tout seul dans le secret. Il va falloir coucher ou donner de l'argent à beaucoup de gens.
Non, je suis tout seul.
Ah, bon, ah oui, ben on ne saura pas. Hein. C'est jeu, c'est on ne saura pas. Non, donc effectivement, 12 vins du monde à déguster, 6 blancs, 6 rouges. Ça se passe comment? Ils ont combien de temps pour les déguster? Est-ce que toutes les équipes passent en même temps? Comment ça se passe?
En fait, on leur sert le vin, ils sont tous assis à table et on leur sert donc, le toutes vin les toutes les 10 minutes. Oui, absolument.
Okay.
Ils ont 10 minutes à peu près pour découvrir le vin. Et puis remplir leur feuille de réponse.
Et ce sont les équipes de combien, Philippe?
Alors, ils sont 4 dégustateurs. Parfois, il y a un 5e personne qui est un coach.
D'accord. Voilà. Femme, garçon, enfin tout le monde.
Absolument, homme-femme.
Homme-femme, il y a mode d'emploi. Quoi, oui.
Absolument.
Est-ce que le coach a le droit d'intervenir pendant que les 4 se grattent l'occiput?
Alors, le coach est un rôle extrêmement ingrat puisqu'il ne peut ni sentir ni goûter le vin. Tout son rôle consiste à écouter un petit peu ce que les dégustateurs disent et puis de faire un peu la synthèse.
Voilà. D'accord.
C'est un rôle extrêmement important.
Ok, et donc oui, c'est ça, les 4 jurés de chaque équipe ont le droit de parler entre eux.
Ah bah, ils parlent entre eux, ils échangent, voilà, bien sûr.
Est-ce que quelquefois ils s'écharpent en pleine épreuve, genre mais non, puisque je te dis que c'est un gamay, et l'autre qui fait mais non, puisque je te dis que c'est un pinot noir?
Non, ce sont les gens bien éduqués, ils s'écharpent après peut-être.
D'accord.
Pas pendant.
Non, mais sans s'écharper, est-ce qu'il y a des fois où vraiment ils ne sont pas d'accord du tout? Je ne sais pas, ça arrive.
Bien évidemment, oui, d'où le rôle du coach, qui lui connaît un peu ces gars et qui est capable de dire bah, écoute, ton raisonnement est cohérent, on va finalement peut-être choisir
ça. Et la Philippe, il a cette édition sur les 3 dernières, quel pays a gagné en tout cas?
Eh bien, la Chine a gagné il y a 3 ans, puis ensuite la Belgique a gagné l'année dernière.
D'accord.
Voilà, moi j'ai l'Espagne en 2015, la Chine en 2016, effectivement, la Suède en 2017, la Belgique en 2018, et la dernière victoire de la France remonte à 2014.
Pas terrible ça quand même. Hein.
Est-ce qu'on a des chances cette année, vous croyez? Vous les connaissez déjà les Français qui vont concourir? Pas encore.
Alors non. Justement, ça va se dérouler le 22 juin de mémoire.
Oui, la grande finale du championnat de France se déroulera le 22 juin. Au vieux château Gobert, et donc c'est là que nous connaîtrons
dans le Bordelais,
bien sûr. C'est là que nous connaîtrons les lauréats, enfin les champions de France qui seront.
Et combien de candidats français ou belges et luxembourgeois? Je crois que tout ça, vous appelez ça la France, non?
En fait, il n'y a pas beaucoup de championnats nationaux. On commence à les mettre en place, mais jusqu'ici, il n'y en avait pas au Luxembourg. Il n'y en a toujours pas au Luxembourg. On commence à en mettre en place en Belgique. Et donc, les Belges viennent au championnat de France.
D'accord.
Et donc, en moyenne, vous avez combien de candidats pour finalement qu'il y en ait 4 à l'arrivée?
C'est compliqué parce que les Belges représentent un contingent de peut-être une trentaine de dégustateurs. Les Français sont beaucoup plus nombreux. Et les Luxembourgeois doivent être une quinzaine.
Et comment on choisit le coach?
Ah ben ça, ils débrouillent, hein, c'est entre eux. C'est à l'intérieur de leur groupe de dégustation, parce que la plupart sont des membres de comités de clubs de dégustation, donc ils se connaissent tous, ils se cooptent, et puis après, les deux champions de France vont choisir deux autres partenaires, et ils vont ensemble se mettre d'accord sur
un Philippe,
coach.
Il faut qu'ils trouvent donc le vin, c'est-à-dire la région, le château et l'année, on va jusqu'au bout, quoi. Et tout ça, évidemment, sans voir les bouteilles.
Et le cépage principal aussi, c'est cépage
principal.
Pays de production, millésime et si possible le producteur.
Enfin, une fois qu'on a trouvé le vigneron, le vignoble et compagnie, pour le cépage, c'est plus facile.
Oui, c'est ça. Et alors, des questions pratiques, qu'est-ce qu'on gagne et combien ça coûte de se présenter?
Ah oui, voilà, pour terminer. Oui.
On gagne le titre de champion de France du monde, en l'occurrence champion du monde, à titre honorifique, une belle coupe et puis quelques bouteilles, c'est tout. Il hein, n'y a pas d'argent à gagner.
Mais on est à vie. Est-ce qu'on peut remettre en jeu son titre, contrairement à Philippe Orba, qui malheureusement, depuis 1992, ne peut plus concourir? Il l'est à vie.
Non. Oui, ils sont champions du monde à vie, évidemment, mais enfin, champion du monde tel millésime.
D'accord. Ah, mais il ne peut pas l'année suivante reconcourir.
Non, parce qu'en fait, dans chaque pays maintenant, on est en train de mettre en place des sélections et des concours internes. Donc, les Suédois, par exemple, étaient champions du monde, et pourtant, pour autant, ce n'est pas eux qui ont représenté la Suède l'année après.
L'année après, quoi. Bon, merci beaucoup. Des nouvelles hein, de ce qui se passe pour la France et également pour le championnat du monde. On va vous réinviter, vous avoir au téléphone pour vous donner enfin le titre. Et j'espère que les Français vont gagner. Quoi. Invino Sud Radio retrouve maintenant, ça y est, non pas une poule, mais André Derieux, consultant patrimoine de la vigne et du vin, également conteur, pour un joli voyage. Où partons-nous aujourd'hui, André?
Allez, hop, je vous emmène en voyage dans le midi de la France. Nous allons en Aramonie. Vous connaissez?
Absolument pas.
Un pays de 150 000 hectares, 1500 km2, plus que le Bordelais et le Calvados.
Est-ce que c'est le Languedoc?
Presque.
Aha.
En plein cœur du Languedoc, oui. Entièrement planté d'un cépage, l'Aramon. Des grappes de 1 kg, 20 kg de raisin par pied de vigne, un rendement de 400 hectolitres l'hectare. On le surnomme ici plan riche, là gros grain, ailleurs pisse-vin.
Sympa.
L'Aramonie va durer 3 siècles, de la deuxième moitié du 17e à la première moitié du 20e. L'Aramon est déjà là, dans le département de l'Hérault, à la grande époque des eaux de vie, au 17e et 18e siècle. puis il contribue à l'expansion de la production entre la Révolution et le phylloxéra. Avec l'arrivée d'une ère de monoculture de la vigne, de grosse production, de grande consommation, il a toutes les qualités, peu exigeant, très productif, résistant aux maladies comme l'oïdium. On dit que lors de la capitulation des troupes napoléoniennes en mars 1814 à Paris, vous vous souvenez ?
Oui, on avait envoyé David Cobold dépêcher d'ailleurs.
Les négociations pour les redditions se déroulèrent au petit jardinet à la Villette, où le tenancier du lieu, le dénommé Lebrun, offrit quelques verres d'Aramon. C'est cette tournée qui permit un armistice de 4 heures, permettant à l'évacuation de la capitale par les troupes françaises.
D'accord.
L'Aramon a littéralement créé la richesse et l'architecture de l'Aramonie, notamment du Biterrois, le vignoble de Béziers. On recense 130 châteaux construits durant cette période faste de la viticulture triomphante. Ils ont souvent des histoires formidables. Après le destructeur phylloxéra, l'Aramon s'impose lors de la replantation. Il envahit les vignobles, notamment ceux d'Algérie. Quelle revanche sur le comte Audard, empélographe, qui dans son traité des cépages les plus estimés, parlait en 1845 de l'Aramon comme d'un cépage méprisable, carrément. En 1890, c'est le cépage le plus répandu de la région méditerranéenne. En 1900, les empélographes Viala et Vermorel le citent comme étant la raison d'être du vignoble du Midi. L'Aramon va accompagner toute l'histoire de France. Il a encouragé les troupes durant la Grande Guerre. Un coup d'Aramon, ça vous remet d'aplomb.
Pas mal.
Les vignerons du Midi, génial coup de pub après les révoltes de 1907 et une surproduction qui s'éternise, offrirent dès août 14 200 000 hectolitres de vin à l'armée. Celle-ci en commandera 6 millions d'hectolitres en 1916, 12 millions en 1917. La ration du soldat passe de 25 centilitres en 1915 à 75 centilitres en 1917. Le militaire et le civil se battent. En 1916, le Comité national de prévoyance et d'économie diffuse des affiches ordonnant de réserver le vin pour nos poilus. À tel point qu'en quotidien, le populaire s'inquiète juste avant l'armistice quant au ravitaillement des populations civiles. Il va bientôt être aussi difficile de trouver un litre d'Aramon qu'il l'est déjà de trouver une livre de macaroni ou un paquet de tabac. Il faut dire que c'est à l'époque où la consommation de vin s'établit aux alentours de 110 litres par habitant, même si c'est du vin à 8 ou 9 degrés, un vin léger et éclairé. Mais on ne se rend pas compte de l'importance de l'Aramon. Vu son omniprésence, c'était devenu un nom générique pour le vin rouge. Pas question de faire ceinture pour la table et pour l'Aramon, écrit Henri Barbus en 1916 dans Le Feu. En temps de paix, on retrouve l'Aramon chez Marcel Aimé dans La Jument Verte. Tout le monde dissimulait son émotion en buvant un coup d'Aramon. Dans le Passe-Muraille, en 1941, Théorème, au lieu d'être à son atelier, buvait un verre d'Aramon sur un zinc de la rue Caulaincourt. Alphonse Boudard raconte une tournée des bistrots dans les combattants du petit bonheur qui se passe durant l'occupation. Il s'est juste humecté la dalle au café Niaule. Il va poursuivre son bonhomme de chemin à l'Aramon, la tournée de toutes les chapelles. Dans les comparaisons, l'Aramon n'est pas gagnant. Lorsque Julien Gracq confronte dans Lettrine, en 1967, la Corse aux Landes, il note « Auprès de l'odeur des forêts landaises que pourtant j'aimais déjà, c'est comme si on libérait les éthers subtils d'un grand Bourgogne après avoir débouché une bouteille d'Aramon. » Dans les années 60, notamment après le gel de 1956, le Midi viticole abandonne l'Aramon au profit des cépages dits améliorateurs. Et aujourd'hui, l'Aramon, c'est seulement 10 000 hectares dans le monde.
Bravo André, bravo. On pourrait même presque l'applaudir à André. C'est très joli, va bien. Merci Philippe de Cantac, Hélène Pio et Philippe Orbach. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.